Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction dans lequel j'ai le plaisir de retrouver notre cher Alain Pascal.
Amis croisés, bonsoir. Et merci de votre invitation.
C'est normal, mon cher Alain, c'est vous qui avez le record du nombre d'invitations à cette émission, puisque vous en êtes à la 9e et puis la 10e ne tardera pas sans doute. Alors, dans une première partie, chers amis, je dirais quelques mots au sujet de la mort de Mgr Williamson. Et ensuite, immédiatement, eh bien, nous embrayerons avec Alain et nous parlerons de son dernier ouvrage. Comme vous avez remarqué, cette émission vient une semaine après la précédente. Henri de Lesquin était indisponible ce soir, donc je le remplace. Et ça tombe très bien parce que moi-même, j'aurais probablement été indisponible la semaine suivante ayant une audience en province. Donc vous voyez, la Providence fait bien les choses. Et comme la Providence fait bien les choses, en allant voir la conférence d'Alain à la Librairie Françoise vendredi dernier, j'ai eu l'idée de l'aider, enfin de le solliciter pour faire cette émission. Voilà.
Alors la conférence, elle était sur Luther et la Kabbale, et elle sera bientôt sur une nouvelle chaîne YouTube, qui est la chaîne du Cercle catholique antimoderne. Alors, il y a une chaîne Alain Pascal et une chaîne du Cercle catholique antimoderne.
On reparlera de Luther, je pense. Ça, oui. Je pense qu'on reparlera de Luther ce soir, mon cher Alain.
Très bien.
Alors attendez, bougez pas. Est-ce que je vais réussir à ouvrir le truc? Non. Alors donc, chers amis, comme vous le savez, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, nous faisons, lors de chaque émission, des annonces pour réagréger la qualité françoise. Alors tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin et que vous êtes francilien, vous connaissez l'adresse, chers amis, 202 rue Lecourbe, chez nos amis de la Librairie française. La Librairie française est en train de devenir, enfin elle était déjà, mais elle est davantage encore un petit bastion de francité au sein de la colonie gauchiste qu'est Paris. Et on y trouve de plus en plus de bonnes conférences, notamment Alain, qui a eu un petit succès quand même.
Oui, il y avait beaucoup de monde.
Et ouais, il y avait plus d'une antenne de personnes. Un soir, il faisait quand même assez froid, enfin il faisait pas très beau.
Oui, oui, non,
ça incitait pas les gens à sortir. Hein.
Non, c'est sympathique.
Ouais, et puis c'est en semaine en plus. Voilà.
Très bien, c'est ce qu'il faut, se retrouver.
Voilà, c'est un moment de convivialité, ce qui fait toujours du bien d'être entre gens normaux. Voilà. Hein, puisque vous le savez que la gauche est une maladie mentale, n'est-ce pas, selon l'expression consacrée.
Très bonne expression.
Voilà. Il y a un bon bouquin qui est sorti avec ce titre. Voilà, je vous recommande. Hein. Bon, bref. Voilà, donc n'hésitez pas à aller chez nos amis de la Librairie Françoise, chers amis, 202 rue Lecourbe, et votre serviteur fera un cycle de conférences, probablement, à partir du printemps, au sujet de la question de Gaulle, Pétain et les autres. Voilà, on va parler de la période de l'occupation. Il y a énormément à dire dans mon prochain livre, vous verrez. Non seulement je soulève des lièvres anciens, mais j'en soulève également des nouveaux. Et moi-même, à chaque fois, je tombe dénué. On croit connaître les choses, et puis à chaque fois, on trouve des trucs qui nous... Et voilà, on a l'impression de se prendre des parpaings sur la tronche en disant « Mais c'est quand même pas possible que la réalité soit ça, alors que le récit soit ça. Cet écart, c'est pas possible. » Et pourtant, si c'est possible.
Il n'y a pas que sur De Gaulle. Mais De Gaulle fait partie, effectivement, du mythe. Il y a un mythe De Gaulle qu'il faut détruire, appelons les choses par leur nom. C'était très nuisible à la France.
Il y a une phrase dans le Comte de Monte Cristo, je crois, où... ou un personnage dit au comte de Monte Cristo, non, je ne peux pas croire que vous fassiez cela et tout ça. Et le comte de Monte Cristo répond, moi aussi, il y a des choses que je ne pouvais croire. Et pourtant, elles étaient vraies. Voilà. Bref. Donc, voilà, petite pub pour nos amis de la Librairie Françoise. Également, si vous cherchez un bon bouquin, n'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin, qui nous prépare, chers amis, pour le printemps, je pense. Également de très 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 beaux ouvrages, de très 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 beaux ouvrages, voilà. Donc remercions nos amis du CSRB pour le boulot monumental qu'ils abattent pour la diffusion de la foi catholique, tout simplement, pour la redécouverte de grands auteurs, pour la découverte d'auteurs plus modestes mais qui sont utiles parce qu'ils mènent le combat aujourd'hui, voilà. Donc le CSRB fait un énorme boulot, donc n'hésitez pas. Et si vous cherchez un bon catéchisme, comme vous le savez, nous vous recommandons chaudement à cette antenne le catéchisme du chanoine Moisset, en complément du catéchisme de Saint-Pédis, bien entendu, catéchisme de doctrine chrétienne de 1913. Voilà. Et n'achetez pas la version facilifiée par qui vous savez. Je ne dis pas par qui, parce que je ne vais pas vous heurter, mon cher Alain. Ensuite, n'hésitez pas à aller sur le site d'édition Les Stockades. Voilà, le site des vrais. Voilà, le site est vrai. Nous n'avons pas de publication récente. La dernière, c'est Le Gambetta que vous voyez ici. Et je pense que la prochaine publication devrait arriver d'ici un petit mois. Et puis, un peu plus tard, et bien, comme je vous dis, là, il va y avoir L'Hypercute, qui sera mon ouvrage sur Vichy, où ça va saigner, chers amis. Je vous le garantis, ça va saigner. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, nous avons des appels aux dons. Donc, appel aux dons pour les écoles amies, appel aux dons pour l'école Les Trois-Saint-Jean en Belgique, appel aux dons pour Notre-Dame Auxiliatrice dans la commune de Béton, appel aux dons pour l'école Sainte-Expédite à Guingamp, et appel aux dons pour le monastère de l'œuvre de l'Étoile, également appel aux dons pour les Sœurs du Christ-Roi. Tous les liens sont en description. Donc, si par extraordinaire vous en avez sous le coude, chers amis, n'hésitez point. N'hésitez point. Vous pouvez aussi aller sur le site La Petite Brocante de Saint-Joseph, si jamais vous êtes curieux et que vous recherchez des beaux objets, religieux ou non. Voilà, n'hésitez pas à faire preuve de curiosité. Et aussi, prioritairement, un petit peu de pub pour notre ami Laurent Studer. C'est quoi les dates de son prochain spectacle qui s'appelle Du XVIIe siècle à la XVIIe chambre?
Mercredi 12 février, mercredi 26 février, vendredi 28 février.
Et c'est au théâtre
du Nord.
Il n'y a pas l'adresse là?
Non, mais il y a le lien vers le théâtre.
Voilà, donc je crois que c'est vers Station Grand Boulevard, hein, plus ou moins dans l'ordre de Paris. Voilà, donc c'est un spectacle sur La Fontaine, chers amis. Donc si vous voulez une petite bulle, un petit morceau de France, voilà, un petit peu d'air françois, n'hésitez pas à aller au spectacle de Laurent. Voilà, alors maintenant nous allons annoncer un événement important, mon cher Alain.
Oui, c'est la fête des amis d'Alain Pascal, et c'est la 7e. Donc quand j'ai commencé, je ne savais pas qu'il y en aurait autant, mais j'en suis absolument ravi. Il y a des piliers, dont vous.
Oui.
Alors, je ne vais pas citer tous les auteurs. Hein. Il y a une douzaine, il y a une affiche. Je pense que vous pourrez la trouver, c'est ça, en description, en dessous.
Ou... Je l'affiche en direct.
Vous mettez l'affiche en direct, donc merci. Et il y a toujours des nouveaux, et des piliers et des nouveaux. Voilà. Donc, c'est l'entrée est gratuite. Il y a un verre de l'amitié. Et j'apprécie ces auteurs et je veux que mes lecteurs connaissent leurs œuvres. Voilà. Il y a des thèses, il y a des littérateurs, c'est varié. Voilà. Et c'est dans le 17e arrondissement, on va donner la date, pardon.
Oui, la date.
Le 29 mars, le samedi 29 mars de cette année, de 14h30 à 19h. Voilà. Donc, et c'est au métro Wagram, hein, c'est rue Brémontier, ça s'appelle le Colisée Wagram, mais enfin il y a l'adresse sur l'affiche, c'est même adresse que les autres années.
Et nous répéterons.
Il y avait beaucoup de monde l'année dernière et j'espère qu'il y aura autant de monde cette année.
Mais davantage encore.
Ou davantage.
Tout le monde est le bienvenu. Conquérante, mon cher.
Vous voyez.
Nous sommes là pour la victoire, hein, pas pour la posture. Bon. Chers amis, la fête des amis d'Alain Pascal, c'est un événement très sympathique chaque année. On est entre François, ça fait du bien, ouais, d'être entre personnes normales, comme je disais tout à l'heure, c'est comme pour les conférences à la librairie française. Donc n'hésitez pas à venir, donc je répète, samedi 29 mars.
29 mars.
Voilà, métro Wagram dans le 17e arrondissement. Voilà. Le lieu est sympathique par ailleurs. Voilà, donc il y a des auteurs, me semble-t-il, de qualité. Et voilà. Donc, nous vous attendons. Voilà, il me semble que j'ai tout dit au niveau des annonces, prioritairement. Oui, alors vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube de Défense de la Foi. Hein, la dernière vidéo en date concerne le pape Honorius et la défense du pape Honorius par Pie IX, le grand pape, qui a défini l'infaillibilité pontificale. Alors, chers amis, avant d'échanger avec Alain, eh bien, peut-être je veux dire un mot, même c'est sûr qu'on va dire un mot, sur la mort de Mgr Williamson. Alors, c'est un événement, quoi qu'on pense du personnage. On va nous dire, mais pourquoi est-ce un événement? C'est un évêque, mais des évêques, il y en a des milliers sur Terre. Eh bien non, précisément, il n'y en a pas des milliers sur Terre. Aujourd'hui, il n'y a que quelques dizaines d'évêques valides, j'entends, sacrés validement, qui se disent catholiques. Pourquoi? À cause du plus grand ennemi de l'Église de tous les temps. Je répète, à cause du plus grand ennemi de l'Église de tous les temps, qui est Giovanni Battista Montini, alias Paul VI. Le crime le plus connu de Paul VI, le grand crime le plus connu de Paul VI, c'est d'avoir aboli la messe catholique pour la remplacer par un rite qui n'est pas une messe, qui est hérétique et qui est invalide, et dans lequel il n'y a pas de présence réelle. Ça, c'est son grand crime, je dirais, le plus connu. Mais il en a un autre grand crime qui est beaucoup moins connu, c'est que Paul VI a aboli un rite de consécration épiscopale valide qui était en œuvre en Occident depuis 1500 ans. Il a aboli ce rite pour le remplacer par un autre qui est invalide, et au terme duquel, donc, un évêque n'est pas validement sacré. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de la chose et le cataclysme de la chose. On peut le mesurer à l'état de ce qui est devenu le monde occidental. Parce que s'il y avait vraiment une église d'un milliard de personnes sur Terre, l'Occident ne serait pas devenu la porcherie qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, chers amis, pourquoi peut-on dire avec certitude que ce rite est invalide ? Pie XII, dans Sacramentum Ordinis, nous rappelle que pour une consécration épiscopale, la forme du sacrement de l'ordre, qui est composée par les paroles de la prière consécratoire, doivent signifier deux choses. Les effets sacramentels, donc il y a deux effets sacramentels, la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Et ça doit être signifié de façon univoque, ce qui signifie que dans tous les rites de consécration épiscopale, d'Occident et d'Orient, il y a une formule qui signifie expressément la grâce du Saint-Esprit et une autre formule qui signifie expressément l'épiscopat. Léon XIII, dans l'Apostolique Cacouré, nous dit que s'il manque une des deux significations, le rite est invalide. Donc nous allons illustrer tout cela. Pierre Thiron, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 1, je vous prie. Donc là, on va voir trois rites, très simplement. Donc, pour le rite latin, celui que Paul VI précisément a aboli. Donc, formule signifiant expressément l'épiscopat, la plénitude de votre ministère. Formule signifiant la grâce du Saint-Esprit, la rosée de l'onction céleste. Voilà, c'est une formule établie par l'Église, puisque l'onction, c'est une façon de désigner le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons le rite maronite. Formule signifiant l'épiscopat, évêque que voici. Formule signifiant la grâce du Saint-Esprit, qu'il reçoit aujourd'hui de vous l'influx de votre Esprit Saint. C'est parfaitement clair. Voilà, je pense que tout le monde peut comprendre. Autre rite, le rite arménien. Formule désignant la grâce du Saint-Esprit, la divine et céleste grâce. Formule désignant l'épiscopat, maintenant élève, l'ordinant, de la prêtrise à l'épiscopat. C'est parfaitement clair. On a une formule qui signifie expressément la grâce du Saint-Esprit et une formule qui signifie expressément la grâce de l'épiscopat. Pour vous donner d'autres idées de la façon dont l'Église signifie l'épiscopat, Pierre Thiron, s'il vous plaît, mettez la pièce numéro 1 bis. Donc, on va reparler du rite latin. Donc, comment l'épiscopat est signifié dans le rite latin ? Je vous l'ai dit, plénitude de votre ministère, donc du sacrement de l'ordre. Dans le rite maronite, évêque que voici. Dans le rite copte, vous avez choisi pour évêque. C'est parfaitement clair. Et ensuite, on nous dit qu'il est le pouvoir de constituer un clergé pour le sanctuaire. Le pouvoir d'ordonner un prêtre appartient à l'épiscopat. Donc c'est une signification implicite de l'épiscopat par la transmission d'un pouvoir propre à l'évêque. Rite arménien, donc on vous l'a dit tout à l'heure, maintenant élève l'ordinant de la prêtrise à l'épiscopat. Rite d'Hippolyte de Rome. Ce rite, chers amis, n'a probablement jamais été appliqué, n'a probablement jamais été existé. Mais en tout cas, les textes qui le mentionnent signifient bien, enfin il y a bien une mention de la signification de l'épiscopat, puisqu'on dit ceci, rempli pour toi ses fonctions de grand prêtre. Le grand prêtre, c'est l'évêque. Donc on transmet les fonctions de grand prêtre. C'est parfaitement clair. Rite grec. Donc on demande que l'ordinant puisse obtenir, citation, la dignité épiscopale ou, selon les traductions, dignité pontificale. Encore une fois, parfaitement clair. Aucune difficulté de compréhension. Et enfin, le rite abyssinien. Votre serviteur que voici, que vous avez élevé à l'épiscopat, c'est parfaitement clair. On peut retrouver ces références, notamment dans le document écrit par les évêques anglois qui s'appelle la Vindication. C'était les évêques anglois de l'époque qui avaient expliqué aux Anglais, aux Anglicans précisément, la décision de Léon XIII à Apostolique à Corée, selon laquelle le rite anglican était invalide. Donc là, on voit que c'est parfaitement clair, chers amis, il n'y a pas de difficulté. À chaque fois, vous prenez tous les rites catholiques, il y a une signification de la grâce du Saint-Esprit qui est parfaitement claire, et une signification de l'épiscopat qui est parfaitement claire. Bon. Et là, on arrive au rite Paul VI. Puis entièrement, s'il vous plaît, pièce numéro 2, je vous prie. On va la lire ensemble, chers amis. Pourquoi ce rite est invalide? Parce que, premièrement, la signification de la grâce du Saint-Esprit est équivoque, alors qu'elle doit être non équivoque, c'est-à-dire qu'on prend une formule qui a plusieurs sens, et qu'importe si le contexte est censé lui donner ce sens. Et deuxièmement, chers amis, il n'y a pas de signification de l'épiscopat. On va lire le passage ensemble. Je précise bien que Paul VI lui-même, dans Pontificalis Romani, dit bien que la validité de son rite dépend uniquement de ce passage. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que mes contradicteurs en désespoir de cause, qu'ils soient modernistes ou lefévristes, vont chercher des passages, des parties cérémoniales. Mais Paul VI lui-même dit que ce n'est pas là que ça se joue. Léon XIII l'avait dit avant lui. C'est au niveau de la prière consécratoire que se joue la question de la validité. Alors lisons ensemble, chers amis, la formule de Paul VI. Envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ. Donc l'esprit souverain, en latin le Spiritum Principalem, c'est censé être la grâce du Saint-Esprit, mais il s'avère, l'abbé Cecada l'a démontré, que Spiritum Principalem a en réalité plusieurs significations. C'est une formule équivoque. C'est déjà un motif d'invalidité. Poursuivons. Donc l'esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu. Donc là, il est bien précisé, chers amis, que ce que le Christ donne aux apôtres, c'est l'esprit souverain, et pas autre chose. Retenez-le bien, c'est important pour la suite. Donc ton fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu, comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. Donc, chers amis, vous le voyez, il n'y a aucune signification de l'épiscopat. Ni de près, ni de loin. Est-ce qu'on utilise le mot épiscopat? Non. Plénitude de votre ministère? Non. Évêque que voici? Non. Est-ce qu'il y a des significations implicites de l'épiscopat comme dans le rite copte? Non. Voilà, il n'y a rien de tout cela. Est-ce qu'on nous parle des fonctions des grands prêtres? Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a pas de signification de l'épiscopat. Aucun mot, aucun passage, aucune locution ne signifie l'épiscopat. Ce rite est invalide. Alors, que nous oppose nos contradicteurs? D'abord, il faut savoir que l'un des créateurs de ce rite, Dom Bott, face aux premières critiques, avait produit une explication. Il nous disait que la formule « l'esprit souverain » signifiait à la fois la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Mais ça ne fonctionnait pas, puisque Pie XII avait bien dit qu'il fallait une formule spécifique pour l'épiscopat et une autre formule spécifique pour la grâce du Saint-Esprit. Donc que font nos contradicteurs? Et c'est là qu'on voit l'aveuglement, voire la mauvaise foi. Ils contredisent l'explication officielle donnée par la secte moderniste, c'est-à-dire qu'eux-mêmes donnent si peu de crédit à leur autorité qu'ils sont contraints de la contredire pour la sauver. On est dans un paradoxe complètement fou. Que nous disent nos contradicteurs? Ils prennent la formule de Paul VI et ils la scindent en deux pour dire « cette partie-là concerne la grâce du Saint-Esprit, cette partie-là concerne l'épiscopat ». Mais ça ne tient pas la route, chers amis. Il suffit de lire le texte. Pourquoi? Que nous disent-ils? Ils nous disent que c'est la locution que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu, qui est censé signifier l'épiscopat. Ça n'a aucun sens, chers amis. Pourquoi? Cette locution commence par le pronom relatif « que ». Or, ce pronom relatif, à quoi est-il afférent? Il n'est pas afférent à un nouvel objet dans la phrase qui serait l'épiscopat. Il n'y a pas de mention d'un objet de l'objet de l'épiscopat. Il est afférent, on l'a bien vu tout à l'heure en lisant le passage, à l'esprit souverain. Il n'y a qu'un seul objet qui est signifié dans cette phrase. Donc ça n'a aucun sens, cette argumentation. Alors on nous dit que cet esprit souverain a été de nos apôtres, oui, c'est l'esprit souverain qui a été de nos apôtres. C'est pas le rang épiscopal, c'est pas la fonction épiscopale en l'espèce dont on dit qu'elle a été de nos apôtres, c'est l'esprit souverain. Et l'esprit souverain n'est pas l'épiscopat, c'est la grâce du Saint-Esprit officiellement. Le serpent se mord la queue, nos contradicteurs sont échec et mat. Pie XII a mis les modernistes échec et mat. Je mets au défi n'importe quel contradicteur de me dire où il y a une signification de l'épiscopat. Il n'y en a pas, et ça fait des années que cette démonstration a été faite. Elle avait déjà été faite par le comité Re Sanctificat. Elle avait même été faite par Uma Kuramaswamy, quoi qu'on pense de l'intéressé. Elle avait été faite par l'abbé Cecada. Elle avait été faite par bien d'autres. Le rite de Montigny-Paul VI, Pontificalis Romani, est invalide. Si quelqu'un veut débattre avec moi publiquement de cette question, je suis à sa disposition. Donc, chers amis, il n'y a presque plus d'évêques sur Terre. C'est une catastrophe. Donc, la mort de Mgr Williamson est un événement. Alors, Mgr Williamson est né dans une famille anglicane. Il a été anglican pendant 30 années. Et il s'est converti au catholicisme vers l'âge de 30 ans, donc. Il est rentré à Écône. Et 5 ans plus tard, il était fait prêtre par Mgr Lefebvre. En 1988, il a été sacré par Mgr Lefebvre. Mais il a été expulsé de la fratrie Saint-Pie-X en 2012 parce qu'il était hostile au rapprochement entre la fraternité Saint-Pie-X et la secte moderniste. Je rappelle que la fraternité Saint-Pie-X reçoit un pouvoir de juridiction de la part de la secte moderniste pour plusieurs sacrements, notamment la confession, l'ordre et le mariage. Alors quel était le problème, chers amis, avec Mgr Williamson? Et là, c'est qu'à l'instar de Mgr Lefebvre, à partir de 1978, il ne professait plus la foi publiquement. Un évêque fait partie des guides enseignantes, donc c'est quand même ennuyeux. Et puis surtout, il y avait toujours ce unacum. Ce unacum qui signifie en communion. En communion avec la secte moderniste et les faux papes. Et je précise que même si vous n'êtes pas sédévacantiste, vous devez être choqué par l'unacum. Pourquoi? Parce que dans le Teijitur, dans ce passage du Teijitur, on est censé citer le nom que de personnes qui professent la foi catholique. Qui ose dire aujourd'hui, en 2025, que Bergoglio professe la foi catholique, chers amis? Dans ce Teijitur, on nous dit que le pape est un serviteur de Dieu. Qui pense sérieusement que Bergoglio est un serviteur de Dieu, chers amis? Le vicaire de Satan n'est pas un serviteur de Dieu par définition. Voilà. Alors, il y a encore peu, un prêtre rattaché à Mgr Williamson a fait une intervention en vidéo où il niait l'infaillibilité pontificale. Donc ça, c'est quand même un des mystères du temps. C'est-à-dire que des personnes qui veulent combattre le modernisme et Vatican II ne le font pas en utilisant l'enseignement infaillible de l'Église, mais des hérésies. C'est quand même étonnant. Et petite anecdote qui m'a été racontée par l'abbé Guépin. Je n'ai pas connu l'abbé Guépin personnellement, mais je l'ai eu au téléphone 2 fois il y a 3 ans pour préparer mon émission sur Mgr Lefebvre. L'abbé Guépin avait été ordonné le même jour que Mgr Williamson, de mémoire, le 29 janvier 1976. Ils se connaissaient très bien, ils étaient amis, et ils s'appelaient par leur prénom. Bon. Et à l'époque, donc c'était sous Benoît XVI, Benoît XVI avait fait des rencontres d'assises. Et Mgr Williamson avait au bout du fil l'abbé Guépin, il lui dit « Non mais c'est pas possible, cet individu est un apostat. » Et l'abbé Guépin lui pose la question « Mais Richard, il s'appelait par leur prénom, est-ce que selon vous, un apostat peut être membre de l'Église et à la tête de l'Église ?» Et là, j'ai demandé quelle était la réponse de Mgr Williamson, il m'a dit « Il n'y a pas eu de réponse. » Évidemment, quelqu'un qui n'a pas la foi catholique n'est pas membre de l'Église catholique. Bon. Donc ceci étant posé, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître que Mgr Williamson a rendu des services à la cause ces dernières années. Par exemple, il a ordonné l'abbé Proulx. Voilà. Donc, pour ça, je remercie Mgr Williamson. Et également, Mgr Williamson a sacré Mgr Vigano. Voilà. Puisque Mgr Vigano avait été faussement sacré par Voïtila Jean-Paul II avec ce rite invalide dont je vous ai parlé. Mgr Vigano n'était pas évêque. Les gens n'appréciaient pas quand je disais l'abbé Vigano. Il n'était pas évêque, donc je ne disais pas Monseigneur, c'est tout. Voilà. Quand je suis face à un prêtre, je dis Monsieur l'abbé, je ne l'appelle pas Monseigneur. Et depuis que Mgr Vigano a été sacré, je dis Monseigneur Vigano. Voilà. Donc Mgr Vigano est validement évêque grâce à Mgr Williamson. On m'a chuchoté dans l'oreille qu'il avait d'abord demandé à la fraternité Saint-Pédis, mais que la fraternité avait refusé. Et donc, il s'est tourné vers Mgr Williamson. Et donc, je le répète, je remercie pour ça Mgr Williamson. Je déplore quand même que lorsque Mgr Vigano a fait sa première sortie officiellement sédévacantiste en juillet dernier, je déplore que Mgr Williamson ne l'ait pas suivi, ça aurait été puissant. Bon, c'est comme ça. Et je déplore aussi qu'un autre évêque sacré par Mgr Williamson, qui s'appelle Mgr Thomas d'Aquin, ait fait un texte pour critiquer les dernières positions de Mgr Vigano. À ce micro, vous le savez, chers amis, nous soutenons Mgr Vigano et nous l'appelons à toujours professer la foi catholique avec toujours plus, je dirais, de radicalité. Voilà. Et à dénoncer toujours avec davantage de radicalité l'imposture moderniste. Pour conclure, chers amis, je m'adresse à un autre évêque sacré par Mgr Williamson, qui s'appelle Mgr Morgan. Mgr Morgan est anglois, Et il vient d'une famille cédévacantiste. Son père, qui se prénommait William, a été un auteur cédévacantiste dans les années 90. Et donc, quand l'abbé Morgan est arrivé, enfin, le séminariste Morgan est arrivé à Écône, il était cédévacantiste et il est resté. Mais il y avait un problème à l'époque, c'est que Mgr Lefebvre obligeait les séminaristes à prêter serment à la secte moderniste et au faux pape moderniste. Et ça, c'est en contradiction avec les convictions du futur abbé Morgan. Il s'avère que Mgr Lefebvre appréciait énormément l'abbé Morgan. Donc l'abbé Morgan a eu le droit à un privilège, il n'y a pas d'autre mot, c'est que Mgr Lefebvre a autorisé à ce qu'il ne prête pas serment au modernisme. Et je rappelle que Saint Pie X nous dit dans Pascendi que le modernisme est le pire ennemi de l'Église. Hein. Bon. Donc à l'époque, il était cédévacantiste. Donc Mgr Morgan, question simple, êtes-vous toujours cédévacantiste? Je pense que vos fidèles ont le droit de savoir. Voilà, donc si vous ne l'êtes plus, bah écoutez, vous ne serez pas le seul, hein, rassurez-vous, même si c'est dommage. Mais je pense que vos fidèles ont le droit de savoir, et nous avons le droit de savoir si nous avons un évêque cédévacantiste en plus. Voilà. Je serais très heureux que ce soit le cas. Donc je pense qu'il faudrait une mise au point à ce sujet. J'avais déjà posé la question publiquement, je n'avais pas eu de réponse. J'espère avoir une réponse de vous, Mgr Morgan. Voilà. Alors, un petit mot également sur l'émission précédente. Bergoglio, comme nous l'avions vu, avait déclaré le 14 décembre dernier, devant une délégation de méthodistes, que catholiques et méthodistes avaient la même foi. Et j'avais posé la question à notre troll préféré moderniste, Fide Fidelis, de nous expliquer l'orthodoxie de cette phrase, de dire que des catholiques ont la même foi que des hérétiques. C'est assez fabuleux. À ma connaissance, à moins que ça m'ait échappé, Fide Fidelis ne l'a pas fait, mais il essaie de trouver quand même un champion pour soutenir qu'effectivement, catholiques et méthodistes avaient la même foi. Puis entièrement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre le commentaire? Parce qu'il faut prendre acte et il faut que les gens assument leur position. Parce que le bon Dieu nous a demandé de rendre témoignage de la vérité. Hein. Donc ceux qui rendent témoignage du faux doivent rendre des comptes. Bon. Donc il s'est trouvé quelqu'un pour dire que si, si, catholiques et méthodistes ont la même foi. Ce quelqu'un, c'est la personne qui tient la chaîne YouTube Napo. Voilà, donc il se fait appeler le catho. Alors effectivement, le catho, mais pas catholique. Hein. Voilà, faut surtout pas confondre les cathos et les catholiques, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Moi, je suis catholique. Je suis pas catho, je suis pas tradit, je suis catholique. Voilà, ça me suffit. Et mot pour mot, il nous dit, mais si, si, catholique et protestant, et donc méthodiste, professent la même foi. Voilà. Parce qu'ils adhèrent au concile du lycée. Alors, chers amis, sachez que il ne suffit pas d'adhérer à un concile pour ne pas être hérétique. Pour être hérétique, Léon XIII nous le dit dans Satis Cognitum, il suffit de nier une vérité de foi. Combien de vérités de foi les méthodistes nient-ils? Mais des paquets. Est-ce qu'ils adhèrent à l'infaillibilité pontificale, à votre avis? Est-ce que, selon vous, ils adhèrent au dogme selon lequel il faut se soumettre au pape pour sauver son âme? Écoutez, soyons sérieux. Seuls les catholiques ont la foi. C'est pas compliqué. Seuls les catholiques ont la foi. Les autres peuvent avoir des croyances, ils peuvent adhérer à des vérités révélées, mais seuls les catholiques ont la foi. Point. Donc, mon cher Cato, charitablement, mon cher Napo, charitablement, voilà, je vous invite à arrêter de raconter des âneries pour défendre votre secte. Voilà. Faites attention, les femmes prêtres arrivent. Donc n'allez pas défendre les femmes prêtres. Hein ? Voilà. Contrairement à ce qu'on dit, le ridicule tue. Voilà, en tout cas, il tue l'âme. Donc, cher ami, pour votre âme, arrêtez de vous flageller de la sorte. Parce que là, même vos amis conciliaires trouve que vous n'êtes pas sérieux quand vous faites ce genre d'affirmation. Donc Bergoglio, ne vous en déplaise, a professé une hérésie grossière. Par ailleurs, Pierre Thiron, est-ce que vous pouvez aller, avant qu'on cède la parole à Alain, sur Satis Cognitum de Léon XIII? Parce que j'ai relu Satis Cognitum ce week-end, et j'ai trouvé un nouvel argument au sujet, vous savez, du triple reniement de Saint-Pierre. Beaucoup de gens inventent l'hérésie du pape qui peut être hérétique en disant que Saint-Pierre a renié. Saint Alphonse de Ligori a répondu à ça il y a des siècles en disant quand Saint-Pierre a renié, il n'était pas pape. Donc ça n'a pas de sens. Mais il y a plus fort. Est-ce que vous pouvez taper effacer, contrôle F ou efface? C'est une citation de Saint Jean Chrysostome.
Du Vatican, elle n'est pas en français.
Elle est sur le site de la Porte Latine.
Ah oui.
Il y est.
J'ai, a priori, oui. Alors, non, effacer.
Effacer, et c'est une citation de Saint Jean Chrysostome au sujet du triple reniement.
Ouais.
Et que dit Saint Jean Chrysostome de mémoire? il dit, si je ne me trompe pas, que le reniement de Saint-Pierre était effacé.
Je peux la lire si tu veux.
Vas-y, vas-y, est-ce qu'il dit ça? Parce que
il était le principal entre les apôtres, il était comme la bouche des autres disciples et la tête du corps apostolique. Jésus lui montrant qu'il doit désormais avoir confiance parce que toute trace de son reniement est effacée, voilà. Lui confie les gouvernements de ses frères.
Toute trace de son reniement était effacée, lui dit Saint-Jean Chrysostome, et en reprenant cette phrase, Léon XIII la magistérialise, entre guillemets, il l'infaillibilise. Toute trace du reniement était effacée. Donc arrêtez de nous dire qu'un pape peut être hérétique au motif que Saint-Pierre a renié, c'est du pipeau tout ça. Donc Saint-Alphonse de Ligori avait déjà réfuté ça il y a des siècles, mais Saint-Jean Chrysostome avait réfuté ça il y a des millénaires déjà, il y a 1500 ans, il y a plus de 1500 ans. Donc arrêtez avec cet argument bidon. Voilà. Donc écoutez le magistère, écoutez Saint-Alphonse de Ligori, écoutez Saint-Jean Chrysostome, n'écoutez pas les hérésiarques gallicans. De grâce, de grâce, de grâce. Voilà. J'en ai fini, mon cher Alain. Et bien maintenant, on va en arriver à votre livre.
Oui, je voudrais dire un mot quand même.
Sur
le reniement de Saint-Pierre. Parce que, en fait, c'est une des preuves de l'authenticité des évangiles. Parce que c'est pas flatteur. Ça veut dire que celui que le Christ a choisi pour être à la tête de l'Église, lui-même a une faiblesse. Et ça prouve la vérité des témoignages, les évangiles, parce que, évidemment, dans tous les mensonges que je dénonce, il y a ceux qui disent que le Christ n'a pas vécu. Alors là, ça, c'est pas possible.
Ce sont des clowns.
C'est vraiment ridicule, ouais. Voilà. Ou que les évangiles ne sont pas authentiques. Voilà une des preuves. Il y a d'autres preuves. Voilà. Sur la crise de l'Église, alors je suis catholique, vous voyez, et j'ai fondé cercle catholique anti-moderne, donc ça devrait vous aller, ouais. Et également anti-moderniste. Et évidemment, je déplore la crise profonde, c'est la plus grave crise que l'Église ait jamais connue.
C'est peu de
il y a eu à la Renaissance des mœurs dissolues, il y a eu, mais il y a jamais eu d'hérésie. Il faut appeler les choses par leur nom. Même un pape Médicis, c'est celui qui condamne Luther, alors qu'on aurait pu craindre le pire, etc. Nous sommes dans une des pires situations que jamais l'Église n'ait connue. Alors, je suis pas compétent en théologie pour vous répondre sur la validité ou non des sacrements, des sacrements et de l'ordination, et voilà. Mais moi, je suis quand même très admiratif pour tous ceux qui consacrent leur vie au Christ. C'est-à-dire que ce soit des religieux ou des religieuses, des prêtres, ils choisissent de servir le Christ.
T'es sûr de ça que les...
ils ont la foi, ils choisissent.
T'es sûr que les évêques conciliaires, ils défendent le Christ, mon cher Alain Pascal? Moi, je suis systématiquement. Est-ce que vous les entendez? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a une croisade?
Attends, je ne suis pas conciliaire. On est bien d'accord.
Oui, mais
on
est bien d'accord. Je mets en cause ce que vous dites. Ils ne consacrent pas leur vie au Christ. Quand on est moderniste, on consacre sa vie au diable.
Les prêtres qu'on connaît, vous avez des quantités de prêtres. Ils ont fait le choix. Ils ont.
Mais il y a des anglicans qui ont fait le choix. Alors. Il y a des anglicans et des luthériens.
Moi, je suis quand même admiratif, si vous voulez. Moi, je suis un défenseur du catholicisme, sans aucun doute.
Oui, oui, oui.
Mais la vocation, la volonté... Alors, est-ce qu'ils sont trompés? Ça, c'est une autre question que vous pouvez poser. Mais je pense qu'ils sont sincères.
Oui, mais attendez,
peut-être pas dans la haute hiérarchie.
Quand Bergoglio nous pond un rite qui permet la bénédiction des couples homosexuels, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Oui. Je suis désolé, mais...
Il peut être trompé, mais
Saint-Pierre ne peut pas faire une abomination pareille. Ce n'est pas possible. Voilà.
C'est pas ça que je vais vous dire. Vous avez aussi des évêques...
La bonne foi n'excuse pas tout.
Des évêques, notamment africains, ou des évêques d'Amérique du Sud, qui ont réagi à cela.
Mais ils ne réagissent pas aux hérésies quotidiennes de Bergoglio. Voilà.
Insuffisamment. Alors,
non, non. L'Église, il n'y a pas d'opposition.
L'Église vit la plus grave crise là-dessus. Et si vous voulez, moi, je me place dans toutes les analyses que je peux faire sur le long terme. Donc, j'allais dire deux choses simplement sur Vatican II, le placer dans un contexte. On est ce n'est pas des excuses. On est dans le contexte de la guerre froide. Et les communistes veulent interdire l'Église. C'est-à-dire que là, on se trouve devant une
Ils le font même. Hein.
Ils le font chez eux, mais si vous voulez, voilà. C'est relayé, évidemment. Vous avez à la même époque une tentative de dialogue avec la franc-maçonnerie pseudo-régulière, puisque ça c'est du baratin, mais ça, c'est un autre sujet. Et si vous voulez, on est dans ce contexte. Donc, Vatican II a servi, en quelque sorte, à ce que l'Église ne soit pas interdite. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit un bien, c'est un mal pour un bien.
Mais cher Alain, si les communistes l'ont autorisé, c'est peut-être précisément parce que ce n'est pas catholique. Hein.
Voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur le temps long, nous avons aujourd'hui la mise en place que je dénonce de la dictature mondialiste. Et pour l'instant, l'Église n'est pas interdite. Parce que justement, le pape ne dénonce pas le mondialisme.
Mais non, elle n'est pas persécutée parce qu'il collabore.
Voilà, il collabore au système
sur tous les sujets.
C'est un immense problème. Et...
Sauf l'avortement pour l'instant, je reconnais. Mais sur tous les sujets, il collabore. Voilà.
Donc, si vous voulez, on se trouve. Et sur le temps long, il va de soi que l'Église survivra à la crise, revivra après la crise, et que l'Église survivra. Est plus forte que le mondialisme. Donc, d'abord, le mondialisme n'est pas en place parce que ça échoue un petit peu. Les plans ne se réalisent pas. Il y avait des plans, ils ne se réalisent pas.
COVID a foiré.
Mais de toute façon, l'Église survivra au mondialisme.
Bien entendu.
Voilà. Mais tout ce que je veux dire sur le sujet. Mais je ne suis pas compétent en théologie pour vous comprendre.
Oui, mais il n'y a pas besoin d'être compétent en théologie pour comprendre une chose. Officiellement, si on considère que les conciliaires sont catholiques, ce que je ne considère pas parce qu'ils ne professent pas la foi, parce qu'ils adhèrent au culte de l'homme et qu'ils pratiquent un faux culte, s'il y avait 1,5 milliard de catholiques sur Terre, est-ce qu'il y aurait cette propagande homosexuelle partout? Est-ce qu'il y aurait l'avortement partout dans le monde occidental? Est-ce qu'il y aurait de la pornographie partout? S'il y avait 1 milliard de catholiques sur Terre, chers amis, nous ne vivrions pas dans ce monde-là. C'est clair. L'Église n'aurait jamais laissé faire ça. Jamais elle n'aurait laissé faire ça. Jamais, 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 jamais. Et au contraire, chez les modernistes, il y a une critique, au mieux il y a une critique molle, et on laisse faire en permanence. Mais la critique molle, c'est de la collaboration. Parce que la foi catholique, c'est tranchant, chers amis. D'accord ? Lisez les parts de l'Église, lisez le magistère, c'est tranchant. Voilà. Lisez, par exemple, ce que Pie IX dit de ceux qui nient l'infaillibilité pontificale. Ceux qui disent que je suis méchant, ne lisez pas Pie IX, hein. Vous allez faire une crise cardiaque. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà.
Ce que je veux dire sur ce que vous dites, c'est que c'est l'Occident qui est en train de dégénérer. C'est notre civilisation. Et pourquoi ? C'est justement parce que l'Occident... s'est converti. L'Occident doit remplir une mission eschatologique,
oui, hein,
c'est d'ailleurs des fins dernières, et c'est pour cela qu'il est attaqué. Alors là, on va en arriver, parce que c'est le sujet, c'est un des sujets que je développe, si vous voulez. C'est que c'est parce que l'Occident est devenu chrétien que l'Occident aujourd'hui, que les forces occultes, appelons-les par leur nom, tentent de supprimer l'Occident. Voilà. Et donc, évidemment, il est évident que s'il y avait une guerre, hein, parce que nous sommes quand même peut-être à l'aube d'une troisième guerre mondiale, c'est pas une France peuplée de drogués ou de dégénérés qui va pouvoir se battre à égalité contre des Chinois ou contre d'autres personnes qui, elles, seront entraînées, déterminées et préparées.
Et qui n'ont pas cette haine de soi.
Et qui n'ont pas la haine de soi. Alors là-dessus, si vous voulez.
Au contraire.
C'est tout un sujet... sur lequel on se retrouve et qui me choque profondément. Moi, j'ai mon âge et donc j'ai assisté à la destruction de la France, notamment de l'Occident en général.
Vous avez d'autant plus de mérite, mon cher Alain, que vous étiez le dernier des Mohicans dans votre génération qui a trahi, malheureusement. Ça veut pas dire que la nôtre est parfaite, hein, on s'en fout. Hein. Mais ça devait être dur quand même. Hein.
C'est très difficile d'avoir vécu ça. Bon, on va faire peut-être quelque chose de plus facile, mais même sur le plan politique, les gens qui se sont engagés il y a 40 ans au Front National, les gens qui ont cru que la France pouvait revivre, tous ces gens-là ont assisté à la destruction de notre nation et à la destruction du catholicisme. Donc, si vous voulez, c'est très pénible à vivre. La seule chose, moi, qui me satisfait énormément, c'est de voir des nouvelles générations.
Oui,
c'est-à-dire que je n'étais pas persuadé du tout, vu l'abrutissement médiatique et scolaire, qu'il y ait une nouvelle génération des convertis au catholicisme et au vrai, si vous voulez. Voilà.
Donc,
si vous voulez, il faut continuer absolument à lutter. Ça c'est peut-être la seule chose.
D'autant plus que l'ennemi recule aujourd'hui.
Absolument.
Lentement. Petit à petit.
Bah, c'est-à-dire que l'ennemi recule. Le diable a voulu aller trop. Il a cru que la bataille était gagnée, si vous voulez. Il est allé trop vite. Et vous avez une réaction, on le voit en politique, aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que ce sont des hérétiques qui réagissent et qui défendent le christianisme. Ce sont des protestants. Avec peut-être une anecdote qui n'est pas dans mon livre, mais en fait, l'immigration aux États-Unis, elle est catholique. Donc, si vous voulez, ils sont contre l'immigration, mais en fait, il y a peut-être un aspect.
Alors, je ne sais pas dans quelle mesure les Colombiens sont très.
Non, mais enfin, il y a quand même les gens d'Amérique du Sud, ils sont catholiques.
Non, mais c'est surtout les Irlandais, les Polonais, les Lituaniens qui ont apporté beaucoup de catholiques aux États-Unis.
Voilà.
Et d'ailleurs, les catholiques, les États-Unis, c'est un des premier pays cinévacantiste au monde, voire le premier en termes de monde.
Voilà. Donc en fait, rien n'est définitif. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut continuer à Luther et à Kennedy Fidich.
Alors, avant de... juste un petit mot sur Luther, Alain, avant qu'on aille plus en détail sur votre livre. Alors, j'ai une citation de Martin Luther, chers amis. Citation. « Pour moi, leur Dieu n'est pas le mien. Leur Dieu est le diable, si ça veut dire quelque chose. Et on ne passe pas du diable au Dieu par une histoire de transsubstantiation ou transmutation qui est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Toutes ces histoires de trinité, d'incarnation, de communion, c'est ce que j'appelle l'arrogance impérialiste catholique. Chez les sauvages, ça s'appelle le tribalisme cannibale, c'est grotesque. Je n'y ai jamais cru. D'ailleurs, ça a beaucoup à voir avec quelque chose de l'ordre de la sorcellerie judaïque. Là, on retombe dans quelque chose qui sent la magie noire. Je n'ai rien à voir avec tout ça. » Ah, excusez-moi, je me trompe, c'est pas une phrase de Martin Luther, c'est une phrase d'Alain Soral. Excusez-moi, je me suis trompé, autant pour moi. Donc dédicace à tous les tradis qui ont soutenu l'intéressé depuis plus de 15 ans. Voilà. Alors mon cher Alain, nous avons cet ouvrage.
Parce qu'il y avait beaucoup de... J'étais surpris parce que c'est une phrase de Luther que je ne connaissais pas. Donc...
Je me suis trompé. Voilà. Je suis comme Bergoglio, je suis faillible. Voilà, je me suis trompé, pardonnez-moi. D'accord. C'était pas Martin Luther. Donc nous avons cet ouvrage, mon cher Alain.
Luther, lui, a commis aussi beaucoup d'erreurs théologiques. Alors là, j'en parle évidemment.
Mais c'est une nouveau bête noire. Dessus. Un jour, on fera
C'est pas une bête noire, c'est je le déplore.
Le Puccin Bowl.
Non, mais c'est pas ça, c'est une 1520, puisque c'est la réforme est 1520, c'est dans les dates que je donne, des dates clés. C'est un drame. Vous avez plusieurs drames. Vous avez 1453, quand l'Orient tombe entre les mains des Ottomans.
Je suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est un châtiment. Je pense que c'est un châtiment.
Il y a des erreurs. Bon, je les ai pas. Mais si vous voulez, 1520, c'est une rupture dans ce qui reste de la chrétienté.
Ah oui, tout à fait.
Et Luther, qui est incompétent en théologie, et qui a un diplôme au rabais, parce qu'il en faut pour l'université de Wittenberg. Donc si vous voulez, dans la révision de l'histoire, il y a évidemment tout un chapitre sur la réforme, c'est pas le principal, mais il en fait partie.
C'est un livre très riche.
Ça va permettre, et en plus... Il nie la raison, alors il se prétend héritier de saint Paul alors qu'il nie la raison. Donc la philosophie va basculer entre les mains des ennemis du christianisme parce que les protestants ont perdu l'intelligence du christianisme. Donc si vous voulez, c'est une série de catastrophes. Voilà. Donc ça c'est certain et donc je critique évidemment. En plus, alors parmi les corrections, puisque je révise totalement l'histoire, il y a par exemple le fait que les guerres de religion, tout ce qu'on nous raconte sur les guerres de religion, c'est un tissu de mensonge, c'est pas les seuls, c'est pas les principaux, mais c'est un tissu de mensonge. Et la première chose à rétablir, c'est d'abord que l'Europe vivait en paix, hein, avant le protestantisme. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a 10 fois plus de victimes catholiques que protestantes. Alors ça, on l'entend pas souvent. Voilà. Une des corrections de l'histoire. Parce que, si vous voulez, tout est fait pour nous culpabiliser.
Donc, ça m'a péché.
Donc, on peut nos ennemis, les ennemis du Christ, parce qu'il faut les nommer par leur nom, peuvent détruire l'Occident parce que tout le passé a été réécrit par eux. Et il a été réécrit contre les faits historiques.
Ce que vous dites est très important, mon cher Alain, parce que à quoi sert la fausse histoire ? À conditionner les esprits.
Bien sûr.
C'est pourquoi... il est toujours important, les gens se disent mais pourquoi vous parlez de Gambetta, Pétain, machin, parce qu'il faut purger les esprits du faux.
Absolument.
Et il faut que les esprits soient reconquis par la vérité. Voilà.
Ça fait 200 ans que ça dure, et c'est pour ça que si vous voulez la première donnée que je donne au début du livre, c'est de dire que la révolution n'est pas le critère de l'histoire. Aujourd'hui, on raconte aux enfants, quand on leur dit encore quelque chose, avant ce sont des gens, des temps obscurs, parce que ce sont des temps chrétiens, l'ancien régime n'a pas été parfait, donc tout ce qu'on veut. Mais et qu'à partir de la révolution, on ouvre une ère moderne, qui est une ère de progrès, et au bout de 2 siècles de révolution... Nous sommes, ce qui est la seconde partie du livre, c'est un des thèmes que je développe depuis au moins 40 ou 50 ans, nous sommes en train de retourner au primitif, mais en pire que le primitif. Parce que les hommes primitifs étaient en quête de Dieu, il y a dans l'humanité une aspiration à connaître le Créateur, et les hommes primitifs ont progressé, les techniques ont progressé, les recherches, la philosophie grecque est un progrès, mais si vous voulez, le plus grand événement de l'histoire, ça n'est pas la révolution, C'est un drame dans l'histoire, mais ce n'est pas le plus grand événement de l'histoire. Que l'on soit chrétien ou pas, le plus grand événement de l'histoire, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. C'est Dieu qui descend sur terre.
Oui, tout à fait.
Et je le dis en croyant, mais je le dis aussi en historien, parce que l'enseignement du Christ, donc si vous voulez, le critère de l'histoire n'est pas la révolution, c'est le premier thème que je développe, le critère de l'histoire, c'est l'incarnation, parce que ça bouleverse totalement la pensée, ça bouleverse tout. Le Christ donne la clé de la théologie, hein, il accomplit la loi. Donc à partir de ce moment-là, sur un plan religieux, il n'y a plus de judaïsme. Il y a un second judaïsme, mais il n'y a plus de judaïsme. Et le Christ change complètement ce qu'on va appeler un paradigme sociétal. Pour donner un exemple très simple que traduit, alors j'aime beaucoup saint Paul parce que saint Paul est un génie dans la tradition, quand il dit il n'y a plus ni maître ni esclave, puisque le Christ va offrir le salut à tous les humains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'économie de l'antiquité païenne qui reposait sur l'esclavage va cesser. Donc les premiers ennemis du christianisme, ce sont ceux qui sont évincés sur un plan religieux, évidemment, ce sont le second judaïsme, hein, qui élaborait le fameux Talmud.
Oui.
Mais vous avez aussi, vous avez aussi un aspect économique, vous avez des initiés à l'époque qui sont auprès des empereurs et qui comprennent très bien que le christianisme va mettre fin à l'esclavage. Et dans les mensonges, alors je ne sais pas dans quel sens on va les prendre, mais par exemple, il n'y a pas au pseudo-Moyen-Âge, on va bien sûr parler
mais ça,
de ça,
c'est
un des thèmes les plus importants, je ne suis pas le premier le plus important, mais par exemple, il n'y a pas d'esclavage. En France, il n'y a pas d'esclavage, il y en a un peu en Angleterre, bon. Mais il n'y en a pas en Europe, il n'y en a pas dans la civilisation qui est devenue chrétienne, il n'y en a pas. L'esclavage va revenir avec la Renaissance. Donc j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « La Renaissance, c'est imposture ». Et la Renaissance fait revenir l'esclavage. Et aujourd'hui, que sont...
Le paganisme fait toujours revenir l'esclavage.
Voilà.
Et vous me permettez une petite incise, Alain ?
Bien sûr.
C'est le national-socialisme qui, quoi qu'on en dise, est un paganisme, a fait renaître l'esclavage dans les camps. Des camps où
et le mondialisme d'aujourd'hui a des esclaves qui sont les immigrés. On les déracine... Je suis évidemment un adversaire forcené de l'immigration, vous l'avez bien compris.
Il n'y a pas tant que ça en France.
Mais sur un plan...
Il ne faut pas écouter les fachos là-dessus.
Sur un plan humain, voilà des gens qui sont sortis de chez eux, qui sont déracinés. Voilà. Et bon, ils nous ruinent, c'est un autre
problème.
Bon, après,
ils préfèrent être ici que chez eux souvent.
Hein. D'accord. Voilà. Mais si vous voulez, ils sont les esclaves du mondialisme. Donc, l'esclavage est revenu, pourquoi ? C'est parce que la révolution n'est pas politique, donc voilà aussi un des thèmes les plus importants de ma révision, c'est la révolution, elle est religieuse. La révolution dite française, d'abord, elle n'est pas faite par le peuple de France.
C'est moins qu'on puisse dire.
Elle est faite par des mercenaires qui sont payés par l'Angleterre. Ces mercenaires sont dirigés par des francs-maçons. On va appeler les choses par leur nom. Celui qui crée le nationalisme révolutionnaire CIS est un franc-maçon de la loge des Neuf Sœurs.
C'est un renégat aussi, parce qu'il était aussi de prêtre. Hein.
Voilà, absolument. Voilà toute l'histoire qu'il faut réviser. Tout ce que on nous dit et on rabâche les oreilles et on voit des émissions à la télévision souvent qui sont scandaleuses. Alors surtout sur l'histoire des religions parce qu'on assiste vraiment à des émissions de pseudo-scientifiques avec cette particularité, c'est que les catholiques qui défendent la tradition chrétienne, vous voyez que j'emploie des termes vastes, n'ont jamais le droit à la parole. C'est-à-dire que vous n'avez aucun débat avec un historien catholique et qui soit en plus qui défendent la tradition. Aucun, jamais.
Oui, oui,
où est la liberté d'expression? Il n'y en a pas. Vous avez quelques faux contradicteurs, mais c'est tout.
Il y a une liberté d'expression pour ceux qui disent le faux, mais ceux qui disent le vrai n'ont pas le droit à la liberté d'expression.
Voilà. Nous sommes dans une dictature culturelle. Donc si vous voulez, moi je dénonce trois occupations, j'ai toujours la même chose, mais la France est occupée par des masses étrangères qui nous ruinent, hein. Qui nous ruine et qui crée une insécurité. Il faut pas ne cherchez pas d'où vient l'insécurité, qui trafique la drogue. Ne cherchez pas d'où vient le déficit, d'où vient la dette. Tous les ans, l'immigration... Alors, il y a des calculs différents. Certains ont donné 80 milliards. Moi, je donne quasiment, avec les coûts induits, 200 milliards.
Mais évidemment, parce que c'est, au niveau des infrastructures, ça nous coûte tellement cher.
Absolument. Et donc, si vous voulez, c'est un drame sur un plan économique, c'est un drame sur un plan sociétal, c'est un drame sur un plan démographique. Puisqu'il y a un changement de population, le fameux grand remplacement, c'est une expression d'un gauchiste repenti, mais elle est quand même réaliste. Moi, j'y ai assisté. Je suis né dans une France qui était la vraie France.
Et vous avez combattu, vous, mon cher, là, à la différence de beaucoup de gens de votre génération.
Voilà, tant mieux, ça a donné un sens à ma vie. Alors, c'est très bien comme ça. Et effectivement, donc si vous voulez, il y a cette occupation. La deuxième occupation, c'est celle illégitime d'une république qui a été d'ailleurs... Pendant la Révolution, la Première République, elle est illégitime. Il n'y a pas de vote. C'est-à-dire, le débat est simple. C'est où tu votes la République ou on te coupe la tête. Donc, si vous voulez, évidemment, voilà. Donc, c'est illégitime, pas d'électeurs. Et puis, cette République, elle est entre les mains des forces occultes, c'est-à-dire d'une finance apatride et de la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, c'est la synagogue de Satan, soyons extrêmement clairs, quels que soient les simagrées. Et malheureusement, il y a des maçons qui se présentent, qui se croient chrétiens. Donc voilà où nous en sommes. Et la Ve République, elle est pareille.
Elle est même donc, pire.
Voilà, j'ai fait aussi une
émission... Parce que la Ve République, mon cher Alain, porte atteinte à la vie du peuple français comme aucune des précédentes.
Absolument.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle la mâchoire infernale, c'est-à-dire 220 000 avortements par an... et des centaines de milliers de migrants en France. C'est la mise à mort de la France sur le long terme.
Et ça a été programmé. Si vous voulez, ça se passe en même temps. Quand les lois sont votées, elles sont des lois préparées à l'avortement, elles sont préparées dans une loge maçonnique, évidemment. Et si vous voulez, ça, c'est simultané. Alors, sous des présidents dits de droite, les socialistes...
La droite a été interdite en 1944. C'est un autre sujet.
Donc, et ce qui se passe, j'avais aimé dans votre livre, c'est ce que, quand vous évoquez la révolution de 1944, c'est-à-dire qu'effectivement, cette fausse libération, il y a aussi évidemment un chapitre sur ce qu'a été l'occupation et la libération.
Il y a un petit mot sur Vichy, oui.
Voilà. Et si vous voulez, donc que fait De Gaulle ? De Gaulle dit, je vais rendre la République à la France, ok ? Et il dit, je vais lui rendre la franc-maçonnerie. Et il fait revenir un grand maître, qui s'appelait Duménil de Gramont. Et Duménil de Gramont a écrit, parce que je l'ai cité, pas dans ce livre-là, mais dans un autre, a écrit que le catholicisme était incompatible avec la pensée maçonnique. Et il a écrit, il faut que l'une ou l'autre civilisation disparaisse.
Ce qui, oui, était fondamental.
Donc disparaisse. C'est une guerre de religion.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle des problèmes identitaires des Français qui ne savent plus qui ils sont. C'est la Révolution qui nous a volé notre identité.
Absolument.
Parce que la Révolution, avec tous ses principes, droits de l'homme, maçon, etc., nous fait bâtir un pays sur des fondements anthropologiques qui ne sont pas les nôtres.
Bien sûr.
Donc on construit un autre pays. La Révolution nous a volé notre identité.
Voilà. Et un mot au passage sur ces fameux droits de l'homme. Quel est l'homme qui a des droits ? C'est l'initié. Et on l'a dès le texte de la Déclaration, parce que c'est les droits de l'homme et du citoyen. Donc le citoyen, il n'est pas l'homme. Le citoyen, il est l'esclave de la République.
C'est celui qui collabore au système, en fait.
Sans le savoir.
Oui, oui.
Il croit qu'il est pas libre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas libres. Voilà. Nous ne sommes pas égaux, pas du tout. De toute façon, l'égalité est un mythe néfaste. Mmh. Dans Les Invités, je vais quand même le citer, puisque en principe, il sera là, Jean-Louis Harwell, qui a écrit Les mensonges de l'égalité, si vous voulez, c'est un mensonge. La liberté, au moment même de la Révolution, quelle est la liberté ? Il n'y en a aucune. Si vous êtes catholique et que vous célébrez la messe, vous êtes condamné à mort. Donc la première victime de la Révolution, c'est le peuple français et c'est le peuple catholique. La Révolution est une guerre de religion contre le catholicisme.
Tout à fait.
Qui a pris prétexte de certains abus de l'Ancien Régime. Alors les abus de l'Ancien Régime, les chiffres qui sont... Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose. Moi, je parle des abus de la République. Où en sommes-nous des abus de la République ? On sait aujourd'hui qu'il y a environ 100 milliards par an qui sont distribués à des comités qui ne servent à rien, aux associations gauchistes, mondialistes, qui nous pourrissent la vie, etc. Ça aussi, il y a une économie à faire, là.
Tout à fait.
Et qui est placé à la tête de ces associations bidons ? Qui est là ? Combien de francs-maçons ? Et les instituts de formation professionnelle ? Combien de francs-maçons ? Combien d'argent ? Parce qu'il n'y a aucune efficacité. L'école...
C'est pas fait pour ça, d'ailleurs.
Et qui tient les syndicats de l'enseignement ?
Hein, oui, la Ligue des droits de l'homme.
La Ligue des droits de l'homme. Et qui est là? Ce sont des francs-maçons.
Ouais,
voilà. Alors, je suis peut-être un petit peu obsédé. Il n'y a pas que. Mais si vous voulez, il faut bien se rendre compte que notre nation...
En tout cas, il n'y a pas beaucoup de catholiques, c'est ce que j'observe.
Il n'y en a pas du tout.
Voilà. Voilà. Pas beaucoup. Voilà. Voilà.
En tout cas, alors, nous ne sommes pas encore condamnés à mort quand nous célébrons la messe, mais ça pourrait arriver. Et c'était déjà arrivé, d'ailleurs, du temps de Calvin. Calvin, que j'appelle l'ayatollah de Genève.
Oui, c'est drôle, ça, d'ailleurs. Ouais.
Bah, c'est une réalité, d'abord. Il lance un djihad sur l'Europe. Alors, c'est un formidable organisateur. Et d'ailleurs, beaucoup de calvinistes qui sont à l'origine de la création de cette secte Rose-Croix dont va également émerger la franc-maçonnerie. Et si vous voulez, Calvin condamne à mort les catholiques qui célèbrent la messe.
Et alors d'où vient cette franc-maçonnerie, mon cher Alain ?
Alors, elle vient...
Comment elle s'est créée ?
Eh bien écoutez, alors ça, elle s'est créée une bascule qui se passe pendant le 17e que j'ai appelé le siècle des Rose-Croix. Où les loges qui étaient opératives, donc vous avez construit les cathédrales, sont infiltrées par ce que l'on appelle des maçons acceptés, c'est le phénomène de l'acceptation, et qui sont des Rose-Croix, des protestants Rose-Croix, beaucoup de calvinistes. Alors les Rose-Croix, ce sont des adeptes de Lucifer, ils tiennent leur lumière de Lucifer, et on a vu récemment, à la cérémonie des Jeux Olympiques, un ange qui descendait, un ange diabolique évidemment, qui descendait la tête en bas, avec une lumière.
Mmh.
Les Jeux olympiques, ce sont des jeux diaboliques.
Moi,
ce sont des jeux mondialistes.
J'ai regardé aucun truc.
Hein. Ils ont permis d'ailleurs une sorte de petite dictature sanitaire bis, c'est-à-dire que Paris était encore là, il y avait de la sécurité. Hein. Vous ne vous faisiez pas agresser dans les rues, vous aviez des barrières, vous aviez
plus partout.
Le droit. Voilà où nous en sommes. Donc tout ça est d'actualité. Et donc vous avez la création de la maçonnerie qui s'appelle spéculative.
Donc c'est une infiltration des loges par les Rose-Croix, en
fait,
qui a créé la franc-maçonnerie.
Voilà, des acceptés, et les maçons qui sont acceptés sont Rose-Croix. Donc font partie de cette secte. Et les croyances des Rose-Croix sont d'actualité.
Oui.
Elles sont d'actualité. Voilà.
Vous avez fait un énorme boulot depuis des années, mon cher Alain. J'ai appris beaucoup de choses à la lecture de vos ouvrages, sur des sujets parfois que j'ignorais complètement, sur le gnosticisme, Philon le juif et tout ça, vous voyez, je connaissais
pas. Sur l'histoire de la philosophie, puisque moi, ma reconversion, parce que j'étais catholique, mais je suis redevenu considérant ce que j'appelle l'échec moderne, c'est-à-dire justement, la révolution devait nous amener le grand bonheur et la paix, ben, c'est pas le cas, il y a 200 ans de guerre, il y a 200 millions de morts au XXe siècle, hein, ce qui repose aussi un problème. Moi, je parle du retour au primitif, et évidemment, je ne suis pas le seul. Je parle aussi du problème du sacrificiel. Voilà. Alors, le sacrificiel, c'est l'œuvre de Girard. Vous avez aussi la Sylvain Durin qui a écrit un livre qui introduit à l'œuvre de Girard, si vous voulez. Et moi, ce livre-là, il introduit à mon œuvre, si vous me pardonnez l'expression.
Mais en même temps, il le dépasse.
Il la dépasse dans la deuxième partie. Mais sur la première partie, j'ai voulu essayer de résumer ce que j'avais pu écrire dans une douzaine d'ouvrages pour que mes lecteurs aient une vision globale de l'histoire.
Ouais. C'est très intéressant. Ouais. Moi qui ai lu tous vos livres, mon cher Alain.
Donc, quels étaient les temps primitifs, pourquoi la philosophie grecque a échoué,
l'imposture de la Renaissance.
Voilà. Puis déjà aussi,
l'apport
chrétien,
etc.
N'est-ce pas? C'est très important. Le sacrifice du Fils de Dieu met fin au sacrifice humain.
Tout à fait.
C'est la fin du sacrifice humain. Et le sacrifice humain revient, et notre république maçonnique a inscrit dans la Constitution le droit de tuer les enfants. C'est un sacrifice. L'enfant est l'innocent. C'est un innocent qui est sacrifié. Donc voilà le résultat de l'antichristianisme viscéral de ceux qui nous dirigent.
Et le résultat final, c'est quoi? C'est le dépeuplement de la France. Voilà. La France se vide de son peuple.
Oui, enfin, elle est à la fois envahie et elle se vide de son peuple de souche.
De son peuple.
De son peuple.
Pas d'autre peuple. De son peuple. Voilà.
Là aussi, substitution du droit du sol au droit du sang, ce qui est un scandale absolu, si vous voulez. Voilà. Voilà. Et voilà toute la démarche. Donc, si vous voulez, la première partie, effectivement, c'est de rappeler... Alors, les poncifs, les poncifs sur le... De toute façon, tout ce qui est anti-chrétien est fondé sur des mensonges. Donc, c'est pas compliqué. Alors, l'un des plus grands poncifs qui m'a intéressé, moi, en tant qu'historien de la philosophie, c'est de dire que le Moyen-Âge, il y avait un Moyen-Âge qui était obscur. Bon. Vous avez des disputes scolastiques. Déjà, Saint-Augustin christianise, Dieu sait que c'est difficile au forceps, Platon, okay, mais on est au IVe siècle. Donc déjà, ce n'est pas un temps obscur. Alors le Moyen-Âge, pour les pseudo-historiens, c'est une invention très tardive. Hein. Alors, et la Renaissance, vous savez que les gens de la Renaissance n'ont jamais dit qu'ils étaient renaissants. La Renaissance, c'est une invention, ça n'existe pas non plus. Le Moyen-Âge débuterait quand les barbares prennent Rome. C'est le début du Moyen-Âge. Pourquoi ? C'est pas parce que ce sont les barbares. Alors il y a aussi là une comparaison qu'on peut faire. C'est Rome a chuté à cause de l'immigration.
Et de l'avortement. Parce que les Romains commençaient à avorter aussi. Voilà.
Donc, si vous voulez, en tout cas, l'immigration, ils ont pris des barbares, entre guillemets, parce que c'est des Germains, pour garder leurs propres frontières. Et quand ils ont été ruinés, qu'ils n'ont pas pu payer, bah, ils sont venus servir. Ils ont pris. Et phénomène extraordinaire.
Nous, nos immigrés, par contre, ils ne font pas ça.
Non, sûrement ils ne le feront pas. Quand on ne pourra plus payer, ils ne le feront pas. Et parce qu'on ne pourra plus payer. Puisque, si vous voulez, la dette abyssale. Qui a été exprès mise en œuvre. Ce n'est pas de l'incompétence. L'imposteur qui nous dirige, ce n'est pas de l'incompétence. C'est volontaire. Bon. C'est pour qu'on ne puisse plus être libre. Et donc, on va ruiner les Français, ça, c'est absolument évident. Et à un moment, la France ne pourra plus entretenir les masses. Donc, elles vont se révolter. Là, on est dans la situation de Rome. Alors, ce qui s'est passé à l'époque, extraordinaire, on ne sait jamais, c'est qu'ils se sont convertis. C'est-à-dire le Moyen-Âge. Pourquoi ? C'est parce que les barbares ont osé devenir chrétiens. Il y avait déjà eu ce miracle qu'à partir de 12 apôtres, un empire, après deux siècles de martyrs, provoqués par certains philosophes d'ailleurs, empereurs philosophes, se soit converti. L'empire est devenu chrétien. Et les barbares détruisent l'empire, reprennent l'empire. Alors, il reste l'empire d'Orient, ça on oublie toujours, on dit que l'empire cesse, mais il y a toujours l'empire en Orient. Et chrétiens, et ils se convertissent. Donc ça serait le début du Moyen-Âge. Et à ce moment-là, vous avez les monastères, ça serait l'obscurité, les moines obscurs, etc. Et en fait, toute la culture de l'Antiquité païenne, elle est dans les monastères. S'il n'y avait pas eu les monastères, il n'y aurait plus de culture. Et à la Renaissance, alors, pour moi, l'apogée, c'est le XIIIe siècle. Hein, il y a les grands scolastiques qui viennent à Paris, il y a Saint-Louis, ils sont des modèles.
Saint-Thomas,
bien sûr, qui vient à Paris.
Qui est le plus grand philosophe de tous les temps.
Le plus grand, qui offre, alors j'ai écrit aussi des livres sur l'intelligence du christianisme, c'est-à-dire tout le rapport de la philosophie avec comment Saint-Augustin, et surtout évidemment Saint-Thomas, a pu christianiser Aristote. Alors pareil, je dis toujours la même chose, mais je ne suis pas platonicien ni aristotélicien, je suis augustinien et thomiste. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pris ce qu'on pouvait prendre. J'explique ça dans un autre livre, je fais ici un résumé. Et si vous voulez, à partir de ce moment-là, la Renaissance est censée redonner la lumière. On a un temps obscur, mais qu'est-ce qui se passe en leur date de 1453? La Renaissance, ça serait de 1453. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de la guerre de Cent Ans, je suis d'accord. Et c'est la catastrophe de l'Orient, n'est-ce pas, la chute de Constantinople, drôle de date. Donc là aussi, hein, il y a beaucoup de massacres, hein, il y a beaucoup de morts. Et d'ailleurs, un des pères de l'œcuménisme de Vatican II écrit, est œcuménique, c'est De Cuès, Nicolas De Cuès, est œcuménique après la chute de Constantinople, avec l'islam.
Il en redemande, oui.
Voilà. Et c'est l'ancêtre de l'œcuménisme actuel. Donc je retrace tous ces parcours, et si vous voulez... La Renaissance n'a rien amené au niveau philosophique, rien du tout. Une perversion, et petit à petit, de perversion en perversion, on arrive à la philosophie moderne.
Voilà. Votre ouvrage sur la Renaissance est un de vos meilleurs, je pense. Après, bon, c'est subjectif, mais moi, c'est un de ceux qui m'a le plus passionné et appris beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup appris en le lisant.
Je cherche aussi à démontrer les sources occultes de la philosophie moderne. C'est-à-dire, c'est pas un progrès de la raison, puisque la philosophie moderne et la Renaissance, c'est lié à la Renaissance, c'est que la Renaissance ne fait pas revenir la philosophie grecque, contrairement à ce qu'on enseigne, encore une fois, elle fait revenir la philosophie de la période que l'on appelle hellénistique, c'est-à-dire qui précède le Christ. Il est une philosophie décadente, et la philosophie grecque est soumise à l'ésotérisme judéo-égyptien.
Ça, c'est très intéressant comme concept, l'ésotérisme judéo-gypte.
Bah, c'est une réalité.
C'est vous qui l'avez inventé, me semble-t-il.
C'est pas une invention, c'est un constat.
Enfin, vous l'avez synthétisé.
Je l'ai synthétisé, mais c'est un constat. Moi, je me base sur les historiens des religions. Je n'invente rien. Aucun historien de la philosophie compétent, voilà, il y en a peut-être qui viendront me contredire. Pour l'instant, non. On peut me mépriser, ça, c'est autre chose. Mais me contredire, pour l'instant, j'attends.
Pierre Simon, est-ce qu'il y a des questions intelligentes? Intelligentes, hein.
Oh, peut-être bien. J'en ai repéré une. Stéphane Michel vous demande la différence entre thomiste et thomasien.
Et
thomasien, thomasien plutôt.
Je sais pas ce que c'est les thomasiens. Je connais les tomates, mais les thomasiens.
Et quel est le rôle de Suarez et de Molina dans la scolastique décadente?
Oui, alors là, c'est pas dans ce livre-là. J'ai écrit un livre sur la scolastique. Je parle de la scolastique dans Islam et Kabbale contre l'Occident chrétien. Alors là, non, si vous voulez, la question est trop vaste. Je ne veux pas y répondre là. Il n'y a pas de...
Est-ce qu'il y a d'autres questions intelligentes, hein?
Elle n'est pas bête comme question.
Mais bon, après, il y a un temps pour tout. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions intelligentes?
Parce que le molinisme, il y a eu des discussions pendant très longtemps sur tous ces sujets-là. Mais, donc j'essaye de les synthétiser dans mes livres, mais là, il faut une heure d'exposé.
Mais de quoi parlent les gens dans le chat s'ils ne posent pas des questions intelligentes, cher Pierre? Ça, je ne comprends pas, en fait. Quoi.
On se parle d'Elvis Presley.
Voilà, donc, bref.
Non, rien d'intéressant.
Rien d'intéressant. Alors, mon cher Alain, oui. Est-ce qu'il y a un mensonge particulier dont on n'a pas encore parlé ce soir et dont vous souhaiteriez parler? Autre question, cher Alain, qu'est-ce que vous dites un petit peu sur l'époque d'aujourd'hui? Parce que vous parlez du passé, mais vous parlez aussi du présent, hein, pour aller vers l'avenir, d'ailleurs.
Bah, je crois que l'un des plus grands mensonges, c'est le mensonge sur la Révolution.
Oui, ça, c'est clair.
J'en ai parlé, mais c'est le mensonge sur la Révolution, le mensonge sur les droits de l'homme. Donc, si vous voulez, le dogme du monde actuel, ce sont les droits de l'homme. Et au nom des droits de l'homme, la guerre a été permanente, les masses sont réduites en esclavage... Et les morts se sont accumulées. Donc là où je suis le plus anticonformiste, c'est que je demande l'abolition des droits de l'homme.
Tout à fait.
Et je plaide pour que la France, puisque c'est ce qui nous concerne,
oui, c'est ça,
pour que la France redevienne catholique.
Ça, c'est la base.
C'est la base. Il faut que le mouvement national d'aujourd'hui comprenne ce qu'est la croisade culturelle. Donc je parlais des deux occupations de la base du politique, mais la troisième occupation, c'est celle des esprits. C'est pour ça que je mène une croisade culturelle, pour rétablir les faits, mais aussi pour que nos esprits soient libérés. Donc rétablissons, reconquérons le passé, rétablissons les faits. J'écris pas une contre-histoire, j'écris l'histoire. Voilà, je révise l'histoire parce qu'elle a été falsifiée. La raison d'être de la France, c'est aussi une mission eschatologique.
Tout à fait, oui. Voilà,
et qui a été remplie par la monarchie. La France naît d'abord. Alors voilà, encore un mensonge, peut-être un mensonge très important qui concerne le Front National, qui concerne le mouvement national. C'est qu'il y a deux nationalismes. Tout le problème de la culture, de la croisade culturelle, donc, c'est que les mots chrétiens sont repris par nos adversaires pour les détourner de leur sens. La nation française, elle naît avec Clovis. C'est le roi, il est le premier roi de France.
Il donne son nom.
Il se fait baptiser.
Au pays, hein.
C'est le roi des Francs, etc. Il y a une assimilation totale, évidemment, pour un certain nombre de temps. Après, il y a Charlemagne qui fait de l'Europe chrétienne, qui sauve l'Europe aussi, hein, contre les invasions turques, etc. Et,
c'était pas les Turcs à l'époque, c'était les Arabes. Hein.
Quand on arrive à la Révolution, le fameux Sieyès dit le tiers-État et la nation, donc déjà au nom du tiers-État, qui est une forme de pré-prolétariat, hein, on va ensuite, Marx appellera ça le prolétariat, on va pouvoir assassiner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le clergé et les nobles. Bon. À la Révolution, vous avez 600 000 morts en France. Hein. 600 000 morts. Alors, peut-être 15 000 religieux, religieuses, un certain nombre de nobles, mais au moins 500 000,
c'est une boucherie.
C'est du peuple, dont des enfants.
Et ce, sans les moyens techniques modernes.
Bien sûr.
Donc ça prouve à quel point il y a une bestialité qui s'est déchaînée à cette époque.
Donc voilà, la France, à partir de ce moment-là, malheureusement, la France devient la patrie des droits de l'homme. Donc elle est apostate, c'est une apostasie, la Révolution. Et dans le serment de dans Saint-Rémy, après, bon, Bon, déjà, je saute les siècles, mais ça va l'importance.
On vous suit, on vous suit.
Oui, ça fait rien. La France est sanctionnée quand elle ne remplit pas sa mission.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui est passé ? Du temps des rois, la France n'a jamais été envahie. Jamais. Il y a eu des guerres, évidemment, mais elle n'a jamais été envahie.
Comme aujourd'hui.
Depuis la Révolution, nous avons subi 3 invasions allemandes et nous subissons une invasion.
Il y avait juste eu la guerre de 100 ans, mais c'était pour les fautes de Philippe le Bel qui, je rappelle, a fait tuer un pape quand même. Ce qui n'est pas terrible. Hein.
Donc, si vous voulez, alors, on ne va pas revenir sur Philippe le Bel parce que pour moi, il a des bons côtés.
Il a des bons côtés. Comme tout être humain commet des péchés et des actes positifs, mais voilà. il a fait
tuer un pape. Donc là aussi, il y a une légende anti-Philippe le Bel. Alors, il y a d'autres choses. Je révise évidemment l'histoire vis-à-vis du catholicisme parce qu'il y a l'histoire de la France. Donc, il faut que la France, si la France ne redevient pas catholique, elle ne mérite pas d'être libre. Soyons très clairs.
Elle va disparaître. Hein. Si la France ne se convertit pas, elle va disparaître.
Elle va disparaître. Elle sera dans une Europe, d'ailleurs, qui sera elle aussi une étape vers le mondialisme.
Là, il y a Mélenchon qui nous a fait un discours, hier ou avant-hier, pour nous expliquer que maintenant, on a conquis les banlieues, maintenant, il faut conquérir les campagnes, maintenant, allez, population immigrée, allez dans les campagnes, c'est à vous, c'est notre nouveau pays, etc. Voilà
où nous en sommes. Donc, si vous voulez, voilà le bilan. Alors, la deuxième partie, c'est un peu un bilan des temps modernes.
Oui.
Avec toute la dénonciation de tous les intellectuels complices. Bon. Alors, je lance des prospectives sur ce qui peut arriver, effectivement. Et j'évoque ce concept que je redoute, que j'appelle la guerre des banlieues, qui sera un soulèvement de violence. Et je précise d'ailleurs que je déplorerais, mais il y aura des victimes dans les deux camps. Je ne suis pas là non plus pour que des enfants d'immigrés se fassent tuer dans une guerre. Hein, soyons très clairs. Mais la situation est explosive.
Tout à fait.
La situation de la France est explosive. Moi, je suis réaliste. Je déplore, mais je suis réaliste.
La bonne politique part du réel.
Part du réel.
Et non pas de l'idéal. Voilà. Donc,
la gauche est une maladie mentale, comme un certain auteur l'a écrit, parce que c'est un refus du réel.
Tout à fait. C'est le fond du problème.
C'est le fond du problème, l'artificialité du langage. Et c'est aussi pour ça que je suis, par exemple, anti-cartésien, hein, au nom de la raison. Enfin, évidemment, tout ce que j'écris est le contraire de ce que l'on peut lire ailleurs.
Est-ce qu'il y a des questions intelligentes, Pierre Sermon?
J'ai sûrement oublié.
Il y avait...
Parce que Alain, vous avez matière à réfléchir ce soir.
J'en vois des questions qui arrivent.
Je ne peux pas faire le résumé de tout le livre.
Mais c'est un ouvrage qui est extrêmement riche.
Alors, il n'est pas trop difficile à lire, par rapport à certains. J'ai voulu faire une vulgarisation.
C'est un de vos ouvrages les plus faciles d'accès, je dirais.
Voilà.
C'est une bonne synthèse d'une partie de votre boulot. Et en même temps, c'est une projection pour comprendre le présent et s'orienter.
Erreurs du passé, elles expliquent le présent.
Oui, tout à fait.
Mais si on corrige ces erreurs, on s'en sortira peut-être. Si la France redevient catholique, donc il faut absolument que ceux qui veulent défendre la France, le mouvement national, appelons-le par leur nom, prennent en considération le phénomène religieux.
Oui, tout à fait.
On n'est pas dans...
Il y a un tabou par rapport à ça. Mal à l'aise.
On n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'on va faire comme économie à droite, à gauche, qu'est-ce qu'on va faire comme petite mesurette. Ça, c'est tout à fait secondaire. Dans l'ordre d'importance, c'est le religieux, le philosophique, le politique. Le politique n'est que tierce. La cause de tout est religieuse. Alors oui, le thème de ce livre, c'est aussi d'expliquer que l'histoire est religieuse. L'histoire n'est pas politique. C'est tertiaire, le politique.
Est-ce qu'il y a une ultime question alors ?
Oui, des questions. Alors, il y a
intelligente.
Une question de Michael Renaud qui voudrait un avis sur les Lubavitch et la reconstruction du Troisième Temple.
Je n'ai pas d'avis sur ce sujet qui n'est pas le mien.
Oui, très franchement, moi j'ai suivi ça d'un peu loin, mais ça me paraît un peu artificiel tout ça. Oui, très franchement.
Il y a d'autres questions, je remonte le fil. Une question de Franz Riedweg. Est-ce que le baptême conciliaire est valide ou faut-il réitérer le sacrement ?
C'est une question douloureuse.
Je n'ai pas la compétence pour répondre.
Non, mais bon, si on baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et qu'on verse de l'eau, c'est valide. Mais est-ce que le clerc conciliaire a bien fait la chose ? Il y a une vidéo très connue de Bergoglio qui baptise un enfant, c'est pas sûr qu'il est baptisé, dans un hôpital, où il prend de l'eau, c'est très bizarre, il prend quelques gouttes d'eau et il les met à peine sur le visage. C'est très étrange, quoi. Voilà. Donc, j'ai un ami qui se reconnaîtra, qui a été baptisé chez les conciliaires et qui a préféré se faire rebaptiser sous condition, parce qu'il avait un doute. Voilà. Donc après, attention, chez les générations plus âgées, après, il n'y a pas de problème. Chez les jeunes générations, qui se sont fait baptiser par des pères Mathieu et compagnie, bon, voilà. Moi, j'aurais quelques doutes.
Il y a d'ailleurs un grand reproche que je peux faire à ma génération et, à ceux d'après, et surtout à ceux d'après, c'est de ne pas avoir fait baptiser leurs enfants. Vous avez aujourd'hui beaucoup de Français ex-catholiques, des familles catholiques, qui n'ont pas fait baptiser leurs enfants.
Tout à fait.
Heureusement, il y a des jeunes qui se font baptiser. Hein. Bon. Moi, j'assiste à ça depuis 7 ou 8 ans.
Oui, oui, tout à fait.
Ça fait 30 ans. Hein. Mon premier livre, il va avoir 30 ans.
Bon. C'est miraculeux. Le bon Dieu envoie les grâces.
Mais il y a maintenant, j'ai beaucoup de jeunes lecteurs, d'abord, et beaucoup de convertis qui se sont fait baptiser. Donc ça...
dont votre serviteur, hein, d'ailleurs.
Voilà. Vous n'êtes pas le... Voilà. Ouais, ouais, j'en ai beaucoup.
Je viens du faux. Moi, j'ai
Ils sont tous les bienvenus aux amis d'Alain Pascal, évidemment. Compris ceux qui sont en voie de conversion, d'ailleurs. Ouais. Parce que, si vous voulez, moi, je veux apporter l'aspect de réflexion philosophique pour consolider la foi.
Bien sûr, oui.
La foi, il y a un sentiment. Nous avons un sentiment, mais il y a une adhésion au dogme.
Oui,
donc, il faut comprendre le dogme. Et il y a une intelligence du christianisme, hein, c'est un de mes thèmes, qui explique non seulement la théologie, mais aussi la philosophie.
Oui, tout à fait. Bon, alors a priori, on peut quand même penser que c'est valide. Mais comme je vous le dis, si vous êtes fait baptiser par un père Mathieu, bon, bah, voilà quoi. Faites attention. Faites attention. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous faire rebaptiser sous condition. D'autant plus que, chers amis, dans le baptême catholique classique, le prêtre rajoute des exorcismes.
Oui.
Les conciliaires ont retiré ces exorcismes. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais il peut y avoir les compléments du baptême. Si vous avez été validement baptisé, il vous manque, si vous êtes passé chez les conciliaires récemment, les compléments du baptême. Voilà, donc vous pouvez demander à un prêtre les compléments du baptême. Un prêtre valide.
Une question de David. De plus en plus de catholiques se tournent vers l'orthodoxie. Pourriez-vous traiter ce sujet, s'il vous plaît ?
Je ne sais pas sur quoi les gens se font.
Non, je ne pense pas, non.
Sincèrement, je ne sais pas sur quoi se fonde cette affirmation.
Alors,
il y a une mode, parce qu'il y a une mode pro-Poutine, etc. Bon, mais moi, j'ai des gens qui sont devenus orthodoxes.
Il y en a, évidemment, il y a toujours des.
Je sais pas si.
Mais
il
y a aussi des musulmans qui se convertissent.
Enfin, si j'en connais un.
Voilà. Moi je connais aussi des musulmans qui se convertissent. Et ils ont du courage.
Ouais, ouais, ouais.
Je les appelle à la conversion, mais ils ont du courage. Parce que leur communauté les rejette. Donc j'en connais. Et d'ailleurs, pardon, parce que c'est un aparté, mais il y a aussi, vous voyez, le diable porte-pierre, c'est une des formules que j'aime bien. Il y a des musulmans qui se convertissent au protestantisme.
Ouais, alors ça par contre...
Alors, si vous, c'est déjà une étape, c'est une étape vers le Christ, c'est peut-être une voie de garage, mais il y a une raison.
Je vais vous raconter une anecdote après.
Oui, mais il y a une raison, c'est que si vous voulez, les deux... dans mon livre sur la réforme, j'ai dit le protestantisme, c'est l'islam d'Occident. C'est-à-dire que ce sont deux pertes d'intelligence qui sont liées aux mêmes sources.
Mmh.
Hein, ce sont des sources talmudiques. Donc ça, talmudique et kabbalistique. Donc j'ai pas répondu sur le phénomène politique des Lubavitch, mais il est absolument évident.
Je crois pas que la France soit tenue par des Lubavitch.
Voilà, mais qu'il y a, à partir du moment... Il y a le second judaïsme, n'est-ce pas, est porteur de ce que l'on appelle le mystère d'iniquité.
Oui, la religion talmudique,
talmudique,
qui est différenciée du judaïsme de l'Ancien Testament.
Et qui a des conséquences, dont l'islam et la filiation. Il y a dans Luther des croyances musulmanes. Luther reprend le Dieu en grande partie. Quand Luther, alors soi-disant, excusez-moi si on revient sur ce sujet-là, mais on dit Luther, la liberté. Non, Luther a écrit le serf-arbitre. Le serf-arbitre, c'est la soumission. C'est le Dieu musulman. C'est le Dieu du Talmud. Donc c'est pas le Dieu chrétien.
J'échange avec une personne conciliaire, figurez-vous, et cette personne m'envoie un jour un message. Parce qu'en Algérie, en ce moment, ils ferment les temples évangéliques. En me disant c'est scandaleux, tout ça, je dis moi je suis pas spécialement pro-algérien. Bon. Mais je dis non, ça c'est pas scandaleux. C'est normal de fermer les temples maçonniques. Dans une société catholique, on ferait ça aussi, vous voyez ce que je veux dire ? Dans les temples évangéliques. Dans une société catholique, on le ferait aussi. Ah mais non, mais tu peux pas dire ça, c'est une conciliaire, hein, je précise cette personne-là. Ah non, tu peux pas dire ça, etc. Je dis écoute, l'Église a toujours combattu la liberté religieuse. Et là, cette personne avec qui j'échange au téléphone, il me fait très drôle. Mon Dieu, le précipice qui nous sépare, quoi. Mon Dieu, le précipice qui nous sépare.
Oui, mais c'est un précipice de vocabulaire.
Ah non, 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 l'Église a toujours combattu la liberté religieuse.
Oui, d'accord, mais...
Ça, c'est en fait.
Parce que...
C'est en fait.
Oui, alors là, il faut s'expliquer.
Ah non, il ne faut pas s'expliquer. L'Église a toujours combattu la liberté religieuse. Les fausses religions n'ont pas le droit d'exister sur la de l'Église. Elle a toujours combattu.
Bien sûr.
Dans Kontakura, aller lire ça.
Oui, non, mais je ne veux pas vous contredire là-dessus. Simplement, ça peut choquer les gens d'aujourd'hui.
Bah, qu'ils ne disent pas catholiques alors. Voilà. S'ils ne sont pas d'accord avec les
papes,
qu'ils ne se disent pas catholiques.
Il faut combattre l'erreur. Voilà. Donc l'Église a toujours combattu les erreurs.
Tout à fait.
C'est tout à fait normal. Mais ce que les gens pensent aujourd'hui, c'est que la liberté religieuse, c'est de croire n'importe quoi. Non. Nous avons une liberté, et la liberté est notre responsabilité, le fameux libre arbitre, ce qu'a déjà expliqué saint Augustin, c'est que nous avons la liberté de choix, mais si nous recevons des grâces, si nous refusons la grâce, nous faisons le mauvais choix.
Oui, oui, tout à fait.
Donc le sens de la liberté religieuse qu'il a pris avec les romantiques et au XIXe siècle avec le modernisme, c'est de faire les mauvais choix. Donc non, nous n'avons pas la liberté de faire les mauvais choix.
Oui, tout à fait.
Je ne sais pas si j'ai été clair.
Non, non, mais voilà. Seul, l'Église nous enseigne que seul le bien et le vrai ont des droits.
Et si nous refusons la grâce, voilà. Nous faisons le mauvais choix.
Oui, mais je dis, seul le bien et le vrai ont des droits. Le bien mal sûr. Et le faux n'ont aucun bien droit sûr. À l'existence. C'est les textes
les
de l'Église,
combattre.
À l'élire Pie XII. Voilà. Donc l'Église a toujours condamné la liberté religieuse. Et la secte moderniste, comme par hasard, nous dit que la révélation est le fondement du fait que les individus ont le droit... d'adhérer au faux. C'est ridicule. C'est ridicule. Allez
aussi...
voir les travaux de Maccabée sur la liberté religieuse, chers amis, sur sa chaîne YouTube. Au passage.
Il y a aussi le phénomène de l'intérêt ou pas dans la conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas notre conscience humaine qui bâtit la religion. Ça, c'est un des phénomènes les plus importants, je crois, dans la crise moderniste.
Tout à fait, tout à fait.
Ce n'est pas un phénomène interne à notre conscience. Notre conscience ou notre intelligence, nous avons le don d'intelligence que Dieu nous a donné pour comprendre. Et nous ne pouvons pas tout comprendre, ça c'est l'orgueil de la science, que je dénonce aussi évidemment. Donc nous devons, pour être intelligents, c'est accepter la vérité révélée.
Tout à fait.
Voilà.
Est-ce qu'il y a une ultime question pour Alain, mon cher Pierre de Tirmont ? Intelligente.
Jean-Philippe Cazel demande le lien entre la Kabbale et la franc-maçonnerie.
Il y a un lien ésotérique. Alors la franc-maçonnerie a un double ésotérisme qui est l'hermétisme, et qui est donc la gnose hermétique, donc c'est la fameuse gnose, et la Kabbale. La Kabbale fait l'ésotérisme maçonnique a intégré la Kabbale. Donc il y a une filiation. Simplement, la franc-maçonnerie moderne n'a pas été créée par des juifs. Elle a été créée par des protestants.
C'est que moi, quand je dis ça, je me fais déglinguer sur les réseaux sociaux. Hein,
c'est une réalité historique.
Oui, mais quand je dis cette réalité historique, je me fais déglinguer par les conspis. Bref, peu importe. Voilà. Ce qui compte, c'est la vérité.
Il ne faut pas avoir peur de la vérité, il faut défendre la vérité. Et quand on rétablit les faits historiques, pourquoi aussi il faut rétablir les faits historiques ? C'est que la vérité historique prouve la vérité religieuse. C'est ça le plus important.
Tout à fait.
Il y a deux choses essentielles, si je peux résumer, c'est comprendre que le vocabulaire chrétien a été retourné en son contraire par les ennemis du christianisme. Donc ça, le mensonge, nous sommes dans la civilisation du mensonge. Pourquoi ont-ils peur du mensonge ? Pourquoi refuser les vérités ? Parce qu'ils ont peur de la vérité.
Parce qu'elle est démasquée.
Et que la vérité triomphera.
Tout à
Donc,
fait.
Donc, rétablissons les vérités historiques et les humains redécouvriront la vérité religieuse. Voilà ma conclusion, si vous le
plaît. Merci, mon cher Alain. Merci à Pierre Tirmont qui était à la technique ce soir. Je pense que c'était une émission dense, tout comme les votres ouvrages, puisque vous traitez beaucoup de sujets. On apprend énormément de choses.
J'ai sûrement oublié des choses.
Ceux qui vous lisent révisent des choses aussi, voilà. Donc pas de conférence ou de signature.
Voilà.
Donc le prochain événement, chers amis, retenez bien, voilà. C'est le 29 mars prochain, la fête des amis d'Alain Pascal, signature avec de nombreux auteurs, dont Alain Pascal, dont votre serviteur, dont d'autres. 17e arrondissement, métro Wagram, et l'adresse précise, c'est
4 rue Brémontier.
4 rue Brémontier, métro Wagram, 29 mars prochain. Voilà. Donc,
l'après-midi, entrée gratuite, verre de l'amitié.
Voilà,
et vous pouvez discuter avec les auteurs.
Voilà, donc toutes les personnes de bonne volonté sont appelées à venir voir les auteurs. Voilà. Voilà,
ça sera un plaisir.
Mais mon cher Alain,
nous
remercie.
Sommes des croisés tous.
Nous sommes tous des croisés.
Bien sûr, conclure avec cette formule.
Nous sommes tous des croisés.
Nous sommes des
bien
croisés.
Entendu.
Et il faut bien avoir conscience.
Et je vous avoue que moi, je suis très jaloux des croisés qui ont fait la première croisade. qui ont repris Jérusalem.
Là, qui était français.
Qui était François, mais tout à fait. Mais attendez, la région Liban-Israël a été françoise pendant près de plus de 100 ans. Hein, pendant plus de 100 ans.
Et la République a abandonné le Liban.
Voilà. Alors c'est De Gaulle qui a abandonné le Liban. C'est De Gaulle. Parce qu'il y avait un mandat français sur le Liban. Et en mai-juin 41, j'ai plus la date précise, pardonnez-moi, les anglo-gaullistes, prétextant qu'il y avait des Allemands en Syrie et au Liban, enfin, il n'y en avait pas, ont attaqué. Et qu'ont fait les gaullistes? Ils ont donné l'indépendance tout de suite au Liban et à la Syrie. Alors que c'était François.
Je pensais à la guerre civile. Voilà.
Bon, après, ça n'a pas aidé, c'est sûr. Mais voilà, De Gaulle, ça s'est traduit comme ça aussi.
Et la France a abandonné les chrétiens d'Orient. On peut en rajouter. Hein. C'est
abandonné les chrétiens d'Occident, figurez-vous. Parce que
et les chrétiens de France.
Le fond, pourquoi on en est là? Parce que les Français ont apostasié.
Tout à fait.
C'est tout.
Révolution a fait apostasier la France.
Les ennemis de l'Église n'auraient aucune influence si les Français étaient restés catholiques et s'ils étaient vigilants
sur
la défense de leur religion. Oui. Voilà. Donc tant que la France est apostate, on n'a même pas à se plaindre de l'immigration, de la masse. Non, vous êtes apostat, vous collaborez. C'est tout. Voilà. Vous êtes apostat, vous collaborez. C'est comme ça. Donc, chers amis qui nous écoutez, si vous n'êtes pas catholique, devenez catholique. Faites-vous baptiser, rejoignez une communauté de Nanakoum dans l'idéal. Si possible, vivez en état de grâce. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout dans notre époque. Mais en tant que catholique, on ne peut pas recommander autre chose. Voilà. Bref, chers amis, je vous remercie. On se retrouvera dans 2 ou 3 semaines. Je ne sais pas trop qui retient moi, on verra pour la date prochaine. Merci cher Alain, vous reviendrez nous voir de toute façon, je pense, cette année.
Et un grand salut à tous les croisés. Je les encourage à la lutte,
voilà,
au prosélytisme, à la prière et à témoigner.
Et nous sommes des croisés, comme le dit Alain.
Et nous sommes des croisés.
Merci à tous et à la prochaine fois.